C'est l'heure à présent de la visite artistique. On suit toujours le micro de Nathan Baer qui lève le voile sur une question: que font les musées quand ils sont fermés? En ce moment, c'est un hasard, mais c'est un fait. Beaucoup de musées sont fermés dans le Finistère pour cause de travaux. Le musée des Beaux-Arts de Quimper, par exemple, celui de Brest ou celui de Plougastel d'Aoulas, musée de la fraise et du patrimoine qui a changé de nom et qui s'appelle désormais musée du pays de Plougastel. Son activité continue hors les murs et la médiatrice Violaine Offrette a donc des choses à raconter.
Le musée est en travaux depuis novembre 2024 parce qu'en fait, il y a un tout nouveau projet de scénographie, de refonte du bâtiment qui est porté par Brest Métropole. Le musée est actuellement en travaux. Ils refont tout l'intérieur en fait du bâtiment qui se compose en fait de deux parties, une partie plus ancienne, donc une maison de commerçants, et la partie plus moderne qui date des années 90 et qui avait été déjà une extension du musée. Donc le musée n'est pas agrandi, mais il est vraiment modifié et remis aux normes aussi, quoi.
Et donc les travaux dureront jusqu'à...
Normalement jusqu'à fin juin 2026. Après, on n'a pas encore de date très claire pour l'inauguration pour le public, mais il faut nous suivre sur les réseaux pour en savoir plus.
Mais comment vit un musée quand il est en travaux ?
Alors, c'est une très bonne question. Alors d'abord, il faut savoir que le musée, il est associatif. On dépend de l'association des Amis du patrimoine de Plougastel. Donc, c'est une association loi 1901. Et en gros, on a pour objectif de valoriser le patrimoine. Le musée, en fait, c'est un outil de l'association. Donc nous, en parallèle de ce musée fermé, on continue nos animations, que ce soit avec les scolaires, avec le tout public. Donc on visite des lieux sur la commune, que ce soit des chapelles, des ports, des sites historiques et naturels. Et en même temps, on travaille sur justement la prochaine scénographie du musée, donc que ce soit la rédaction des textes, le choix des iconographies et aussi les prochaines animations qu'on va pouvoir faire, notamment l'inauguration qui risque d'être... Alors grandiose, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, on espère qu'elle sera très appréciée du public.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur les animations? Quel type d'animation vous faites? Quand et comment?
Alors, par exemple, ce matin, nous étions avec ma collègue dans une classe à Brest, donc avec des petites sections, pour faire une animation autour du costume de Plougastel, parce qu'on peut se déplacer aussi dans les établissements scolaires, que ce soit pour les maternelles jusqu'au lycée, même à la fac. Donc, il y a cette partie-là qui nous permet d'avoir toujours une activité. Et après, concernant les animations, en fait, nous, on établit notre programmation. Par exemple, en février, on va proposer différentes animations à destination du public. Donc, ça va être... une visite du port de l'Oberlin, une visite de chapelle, la chapelle de Sainte-Christine. Et on aura aussi des ateliers, des visites ateliers à destination des petits et grands. Donc tout ce qui va être, on va dire, axé sur un atelier créatif et en parallèle une thématique qui est abordée au musée. Par exemple, une visite d'atelier sur l'aquarelle en lien avec deux œuvres qu'on a au musée, qu'on va sortir de nos collections qui sont hors les murs actuellement, pour permettre justement au public de voir ces deux œuvres et après de travailler entre guillemets, alors travailler c'est un bien grand mot, mais en tout cas de s'amuser autour de cette thématique-là, que ce soit un peu une initiation à l'aquarelle. Ça c'est un des exemples qu'on peut donner, en tout cas on reste actif. Mais c'est pas parce que le musée est fermé que justement on ne fait rien.
Et donc les animations sont tout public, ciblées ou...
Ça dépend vraiment des animations. Pour tout ce qui est balade, on essaie d'être soit en public familial, soit en public, on va dire, à partir de 12 ans, pour bien comprendre des fois certaines thématiques historiques. Et pour les ateliers, par contre, on commence à partir de 4 ans. Donc, et ça peut aller vraiment jusqu'à 90 ans et plus. En fait, on s'adapte à notre public. On a cette chance, c'est qu'il y a plusieurs bénévoles qui nous accompagnent lors de ces animations, notamment les animations créatives. Donc, on peut dire... plus proche des participants aussi, donc ça crée plus de convivialité. Et puis on peut plus aussi creuser certains sujets en fonction de ce qui est abordé et ce que les gens souhaitent découvrir, quoi.
Et notamment, ce qui est abordé, c'est le patrimoine culturel,
oui,
ou plus ?
Alors, ça dépend des visites et des animations. Mais par exemple, sur les ateliers, on va être plutôt sur du patrimoine culturel et du patrimoine artistique. Là, par exemple, avec les œuvres, ça nous permet de découvrir différents artistes, comme Mathurin Meu, par exemple, qui est un artiste assez connu en Bretagne et en France de manière générale, où on va travailler autour des costumes. On va travailler aussi au niveau des paysages, de l'évolution. Et par exemple, quand on est sur une visite guidée, par exemple, de chapelle, là, on va davantage expliquer tout ce qui est architecture, statuaire, légende aussi, qu'il peut y avoir sur certaines statues ou emplacements directement de la chapelle. Donc, ça permet d'avoir un large panel, on va dire, de type de patrimoine. Et du coup, ça nous permet aussi de plus facilement rebondir. Plusieurs fois, sur cette radio, on a parlé du Géoparc Armorique. Nous, on fait partie aussi du Géoparc. On est une des maisons du Géoparc. Donc, par exemple, on peut aussi s'attarder sur tout ce qui est géologie du territoire, avec la Kersantide, la pierre de Logona, et justement, quel est le lien entre la terre, la géologie et les constructions humaines, ou même les savoir-faire humains, quoi.
Et d'où vous viennent toutes ces connaissances culturelles ? Vous avez fait des formations, vous avez appris sur le tas ?
Alors moi j'ai fait une licence histoire de l'art et archéologie, et après j'ai fait une licence animation et valorisation des patrimoines, et ensuite j'ai enchaîné sur un master sur la même thématique. Après on a différentes personnes qui guident, qui n'ont pas forcément la même formation, même sont plutôt des érudits locaux comme on peut les appeler, et du coup qui ont fait énormément de recherches dans différents ouvrages du coin et aussi dans les archives. En tout cas on s'assure que les gens qui sont présentés, on va dire, devant un public aient une formation, en tout cas soit formé avant de pouvoir faire des visites. C'est très important. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé pour faire des visites guidées, il ne faut surtout pas hésiter à venir nous voir.
Et justement, vos animations, j'ai vu que certaines étaient gratuites et d'autres payantes. Pour quelles raisons ?
Alors, la gratuité, on essaye de la faire quand on le peut. Souvent sur les événements, on va dire les gros événements où il y a plusieurs autres associations ou personnes qui participent, on les fait gratuites. Et par contre, pour tout ce qui est animation payante, en fait, c'est pour faire vivre l'association. Parce qu'on est une association qui vivons essentiellement par des subventions, par les entrées que nous pouvions faire au musée et à la boutique. Mais là, le musée étant fermé, c'est vrai que faire des animations payantes, en fait, c'est vraiment aussi important pour nous, pour que l'association se maintienne à flot et qu'on ait toujours au moins 2 salariés, quoi.
Ok, et justement, combien de salariés êtes-vous et combien de bénévoles possédez-vous ?
Alors actuellement, on est 2 salariés à temps plein. On a aussi une alternante en communication qui est présente dans la structure depuis plus d'un an et qui va encore le rester, qui va rester encore avec nous pendant plusieurs mois. Et ensuite, on fonctionne avec une trentaine de bénévoles actifs. Et après, on a nos adhérents aussi qui nous appuient et qui appuient bien sûr l'association par leur adhésion, par leur participation et leurs idées, quoi. Et n'hésitez pas surtout à consulter notre site internet ou nos réseaux sociaux pour vous tenir informés aussi de l'actualité. On essaye de proposer des choses, même quand on ne fait pas des visites. En fait, si on suit un peu l'actualité du musée, on peut vite découvrir des choses sur le patrimoine local et ça peut peut-être donner des idées et envie de valoriser son patrimoine.
Les rendez-vous du mois de février seront détaillés sur le site internet du musée du pays de Plougastel d'Aulas, et vous pouvez suivre aussi la page Facebook et le compte Instagram du musée.